Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Palabre en forêt sur Radio Barthès 107 FM. Nous revoici en forêt domaniale du Rouvergue sur la commune de Saint-Jean-du-Pin, sur le site des ruines du Château de Sauvage, sur les sentiers forestiers aménagés par l'ONF. Donc on se retrouve avec Margot, bonjour.
Salut, salut.
Avec Aymeric.
Bonjour.
Avec Loïc Fontaine de l'Office National des Forêts. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et puis avec Léo qui nous tient la perche. Bonjour de loin.
Salut de loin.
Et nous voici partis à la découverte de ces deux sentiers. Alors là, on descend le sentier pour aller vers le Cèdre. Et donc on voit des petits aménagements là, en rondins. Tu peux nous en parler Loïc ?
Alors en fait, l'idée ça a été de... Pour la mise en sécurisation, on a été obligé de couper des arbres pour la création du sentier et ainsi de suite. Mais l'idée, c'était d'utiliser au maximum les arbres, quitte à les couper, autant qu'ils restent sur le site.
Okay.
Donc là, c'est des rondins qu'on a mis en place pour retenir le sol et faire un peu comme un escalier, quoi, que les gens puissent avoir une pente un peu adoucie. Mmh. Et autour du grand cèdre, ça sert de bandes. De sièges et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment le bois sur place,
oui,
qui était là, qu'on a tenté d'utiliser au maximum, histoire qu'il ne soit pas coupé pour rien, quoi.
Ouais, très sympathique.
Donc là, on vient d'arriver devant un cèdre absolument magnifique, qui fait, on vient de nous dire, 5 mètres de circonférence. Et Aymeric est en train de faire le tour de l'arbre en ayant un air très concentré.
Oui, j'aime bien casser les idées reçues. On dit que les mousses poussent au nord sur un arbre. Et donc si tu es perdu en forêt, tu regardes les mousses, là où elles sont le plus présentes, c'est nord, donc tu files vers le nord, tu retrouves ton chemin avec ça. Ça marche pas du tout. En fait, les mousses, elles se mettent du côté où il y a l'hygrométrie favorable la plus importante. Si c'est au bord d'un ruisseau, les mousses vont se mettre plutôt côté ruisseau. Et si le vent dominant qui vient de l'océan, qui apporte plein de pluviométrie, il est à l'ouest, eh ben, les mousses vont se mettre à l'ouest, etc. Et là, dans ce cas présent, le sud étant là, et bien curieusement, les mousses sont plein est. Plein ouest, pardon. Plein ouest. Et pas du tout plein nord. Donc voilà, c'est juste pour vous casser cette idée reçue.
Et Loïc, du coup, on est au pied de cet arbre qui est vraiment majestueux et il y a des aménagements qui sont autour. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé là des arbres qui avaient dû être coupés et qui ont été utilisés pour l'aménagement. Il y a des petits sièges et on est aussi sur une sorte de parquet qui entoure l'arbre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il a été mis en place ?
Alors le patelage, il est en place pour que en fait, les gens puissent circuler autour du cèdre, mais sans qu'il y ait trop de tassement de terrain, en fait. Parce que le tassement de terrain entraîne il y a les racines. Alors même s'il est important, que les racines elles vont sûrement bien plus loin que nous, c'était quand même important de protéger le sol et que le sol reste meuble, que l'eau puisse pénétrer. Et donc le platelage, ça, c'est Lucille Antard qu'on a eu l'excellente idée. Et tout autour du platelage, il y a l'évolution de ce cèdre qu'on peut imaginer à travers les siècles, de sa naissance à toujours maintenant, d'ailleurs.
Et donc, alors du coup, la naissance, on peut estimer à quelle date il a été planté d'ailleurs, ou
Il était sous Louis XV.
Ouais.
Donc voilà, hein, 300 ans, quoi, okay. Quelque chose près. On l'estime à planté par les frères Boissé de Sauvage. Il serait question que ce soit un des premiers cèdres de l'Atlas plantés en France.
Ah oui, ok.
Voilà. Il fait 25 mètres de haut.
Alors on pense qu'il y a certaines branches qui ont été coupées. Tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors, les branches, effectivement, au départ, quand on parle d'accueil du public, il faut sécuriser. Et il y avait énormément de branches mortes. Donc il y a eu un travail fait par des experts.
Taille de soins,
tout à fait, et de sécurisation. Alors il y a des branches qui semblent vivantes, qui ont été abattues, mais en fait c'était vraiment pour la sécurisation et ne pas déséquilibrer
le port de l'arbre,
tout à fait. Donc il y a eu du bois qui a été coupé, mais en fait il réagit très bien. Il est très sain, il est très vigoureux, à la différence des petits qu'on voit à côté qui, eux, malheureusement, ont tendance à dépérir au fur et à mesure. Quoi. On en a coupé pour faire les sièges et les bancs, là.
Oui.
Mais il faudrait presque en recouper pour la sécurisation. Mais il sèche, il sèche.
Et lui, voilà. Là, du coup, c'est parce qu'il a un système racinaire qui est plus développé que ses petits collègues qu'il arrive à mieux résister.
Ah, au niveau... Oui, ça, ouais. C'est... Je pense très clairement.
Ouais.
Donc, il va pomper l'eau bien loin. Et les autres sont plus fragiles. Lui, il a une constitution assez forte. Mmh. Espérons que ça dure.
Oui.
Oui. On dit parfois que les racines correspondent à la tête de l'arbre. Est-ce que là, c'est pareil pour le cèdre ou il a une racine différente?
Selon les essences, c'est jusqu'à 5 fois la hauteur de l'arbre, les racines.
Ah oui.
Donc là, ici, lui, il va très loin. Là, hein. Il va plus, il peut aller à près de 50 mètres autour de... Du cycle, hein. Il y a un système racinaire très, très développé. Il a eu le temps de le développer.
Oui, entre 100 ans, ça va.
Bah, du coup, je suis désolé, je me suis trompé par habitude de planter du cèdre du Liban, de l'Atlas, pardon.
Justement.
Et c'est en fait, ce cèdre-là majestueux est un cèdre du Liban.
Et oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de cèdres plantés parce que c'est une essence adaptée à la sécheresse, qui est moins sensible au feu. Donc les cèdres de l'Atlas, c'est très courant aujourd'hui d'en voir. Et il y a une autre sous-espèce, donc cèdre du Liban.
Mais les cèdres du Liban, on en replante là, justement, par rapport au réchauffement climatique et à leur capacité à supporter la sécheresse. Donc il y a des provenances de graines d'autres secteurs du Liban aussi maintenant qui
viennent ici, ouais, parce que l'Atlas qui sont proches de chez nous, c'est le Maghreb.
C'est le Maghreb, c'est le Maroc.
Mais le Liban, ouais, c'est un peu plus loin, mais ça vient quand même.
Le cèdre s'adapter. De l'Atlas, c'est plus en zone montagneuse. Mmh. Avec un peu plus de pluviométrie sur l'Atlas. Donc là, pour nous, c'est plus adapté le cèdre du Liban maintenant.
Sur les zones plus basses.
Sur les zones basses des Cévennes.
Okay. Et puis pour rajouter un petit point sur les cèdres, parce que effectivement, c'est une essence exotique, mais on voit bien que c'est une espèce qui est hyper adaptée. Il suffit de regarder, il y a plein d'endroits, j'en avais déjà parlé.
Mmh.
Et ce qui est intéressant chez les cèdres, c'est que l'impact sur la végétation au sol est nettement moins fort que, par exemple, des essences comme le robinier, qui vont énormément sélectionner les espèces en dessous. Le cèdre a un tapis d'aiguilles qui est moins sélectif sur l'ambiance végétale du dessous. Donc moi, je trouve nettement moins impactant.
Et donc favorable à la biodiversité.
En quelque sorte, oui, même si c'est une essence exotique. Et puis retenir un peu l'idée générale de ces essences exotiques, c'est pas excessivement grave d'en avoir. Ce qui est important, c'est de conserver aussi les autochtones et de continuer à faire des mélanges, et de donner un maximum de chance à la nature pour que c'est le meilleur qui l'emportera. Mais en tout cas, on laisse aussi une place aux autochtones. Quoi.
Oui, et ça fait écho à ce qu'un grand forestier nous a dit. Pas si longtemps, il y a 2 ans, c'était à la fête de la forêt, la première édition à Barre des Cévennes, Hervé Le Boulaire, voilà, qui est un forestier quand même nationalement connu. Et même, il disait que ce n'était pas étonnant que le cèdre de l'Atlas s'adapte bien, parce qu'il était présent il y a 30 000 ans, en fait, ici. Et donc, il nous expliquait que sans doute, il y a des traces quand même qui sont dans le sol, même il y a 30 000 ans, parce que tout ça, c'est des processus très longs. Et donc, c'était pour ça, à son avis, qu'il s'adaptait bien. Donc, exotique, oui, mais il y a 30 000 ans, pas tant.
Voilà. Ouais.
On se trouve devant 2 magnifiques chêne-liège. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Loïc, est-ce que tu peux nous parler de ces chêne-liège ?
C'est vraiment une spécificité du site.
Énorme.
On en trouve difficilement ailleurs, surtout de cette...
Parce que c'est pas une essence qu'on trouve ici, normalement.
Non, voilà. Ça a vraiment été implanté au même moment que les autres de l'arboretum. Par contre, il s'y plaît. Le chêne-liège s'y plaît vraiment. à tel point qu'il s'est reproduit. Tous les chênes qu'on a quasiment sur le site sont exclusivement du chêne liège. Et là, on a aménagé avec une petite barrière, parce que malheureusement, les gens s'amusent à arracher l'écorce.
Ah.
Et ce qui le favorise pas, sa longévité. Non. Donc, pour le protéger, on a mis cette barrière, que les gens puissent en profiter et le regarder. En fait, il est encore plus beau quand on prend le temps de s'éloigner et de le regarder de loin, parce que la branchaison est magnifique et il prend énormément de place. Et...
Alors, on imagine que son système racinaire doit être aussi énorme.
Oui, très grand. Mm. Il va surtout, je pense, sur les zones un peu fraîches du bas, là.
Et le chêne liège en France, où est-ce qu'on le retrouve, Aymeric ?
C'est un arbre qui est autochtone en Corse, notamment parmi les plus beaux chênes lièges de France. Et je vous invite à aller en Corse, hein, parce qu'il ressemble, beaucoup ressemble à celui qu'on a devant nous, là. Et puis, mort et stérile. Donc, le chêne liège, lui, il a besoin de... d'endroits où il fait en moyenne plus de 12 degrés par an. 12 degrés, ça ne parle pas, mais c'est la moyenne annuelle, hein. C'est très élevé.
D'accord.
Et puis, il faut de la roche siliceuse, donc il ne poussera pas sur calcaire.
Mm-hmm.
Donc ici, on a sûrement le cas, c'est rare que ça... La température doit être bonne, mais pour les Cévennes, c'est vrai que c'est un arbre qui aurait sa place, qui va sûrement avoir sa place dans les années à venir. Et il évoque, si on ne fait pas gaffe de loin, ça évoque un chêne vert. Et puis c'est quand on s'approche qu'on voit le liège. C'est ça que je trouve amusant dans le chêne liège. Mais ouais, c'est pas un arbre dont on fait facilement des tiges pour faire des belles planches. Hein. Mais en tout
on
cas,
en fait c'est... plein de bouchons. Ou du sol.
On en fait du bouchon, oui, effectivement.
Et puis des panneaux d'isolation. Le liège entre beaucoup dans les panneaux d'isolation.
Alors, ça va être la seconde écorce. Quoi.
Ah, c'est-à-dire qu'il faut enlever une première fois.
C'est une opération de démasclage. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il coupe, quand l'arbre est à maturité, il coupe l'écorce sur tout le tour, jusqu'à 1,50 m de haut à peu près. Et c'est la deuxième écorce, qui va repousser, qui, elle, sera utilisable beaucoup plus dense.
Ah ouais.
On le voit là sur celui-là, du côté gauche. Mm-hmm. C'est la première écorce qui n'a jamais été arrachée ni quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Et comme là, du côté droit, on voit que celle qui a repoussé suite aux arrachages multiples, là, elle est beaucoup plus dense, elle est moins crevassée, elle est plus... Voilà. Et c'est cette partie-là qui serait éventuellement ramassée et dans laquelle on taillerait les bouchons. Et...
Mais ici, on ne touche pas.
On ne touche pas du tout.
Oui.
Alors moi, je vous invite à jouer l'arroseur de mousse parce que c'est hyper important. Les mousses, elles souffrent quand il fait sec. Et moi, j'ai ce petit vaporisateur là qu'on achète dans les pharmacies pour 6 euros. Ça, c'est vachement utile quand il fait chaud dans la voiture. Mais pour les mousses, c'est top parce que ça les réhydrate très bien. Et les mousses, si vous les regardez quand il fait sec, elles ressemblent à rien, elles se ressemblent toutes. Et dès que vous les hydratez, elles, en quelques secondes, elles se réouvrent. C'est comme si vous ouvriez une fleur en quelques secondes. C'est très, très beau. Mais tout ça s'observe évidemment à la loupe. Et j'ai besoin de faire ça, moi, pour voir des choses. Ce n'est pas mon métier d'arroser les mousses, mais j'aime bien. Et là, oui, celle-là, je vais devoir la prélever parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Elle est bizarre comme tout.
Alors là, on est sur le second chêne liège.
Ouais.
Et donc, oui, c'est une mousse et un lichen.
Oui, on a deux choses. On a un fond vert qui a l'air d'être une hépatique à feuilles. Alors, soit c'est la classique frulania là, qui crée des... La frulania, elle est un petit peu célèbre. C'est une hépatique qui, chez les bûcherons qui manipulent les grumes permanence, le torse nu, là, on imagine bien l'image du bûcheron torse nu.
On a changé de site d'émission là.
Il prend les grumes dans ses bras et tout. Ouais. Et en fait, il chope un urticaire hyper violent qui s'appelle la frulanite et qui est lié à cette mousse qui a un petit côté chez certains. Ça ne marche pas chez tout le monde. Moi, ça ne me l'a jamais fait, mais je ne me suis jamais amusé à me frotter de frulania. Mais un urticaire, quoi, une vraie allergie.
Okay.
Et c'est ce que je me demande ici, mais je ne crois pas que ça soit ça. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Je vais faire un petit prélèvement. Et sinon, il y a un fond aussi grisâtre.
Mmh.
Donc ça, c'est un lichen. Et la lutte entre mousse et lichen, c'est un peu toujours la même. Des fois, ils sont associés. Des fois, ils luttent contre l'un.
D'accord. ils luttent ou ils sont en symbiose?
Chacun est un peu compétitif. C'est-à-dire que quand la période est plus sèche, c'est plutôt favorable aux lichens qui supportent bien les sécheresses. Et quand au contraire on a un coin très humide, eh ben, c'est les mousses qui vont dominer. Et donc quand tu es un peu entre les deux, ben, tu as un espèce d'entre-deux où lichens et mousses choisissent leur versant. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le lichen il va préférer le versant plus sec sur un même tronc, et la mousse, le versant plus humide.
Ok, merci. On n'a pas parlé s'il y avait des petits insectes là qui se mettent dans le liège. Il y en a ou pas?
Quand tu vois le nombre de l'étendue des gorges et des trous et des crevasses qu'il y a là-dedans, oui, il y a sûrement plein de choses, mais je connais mal. Mais on voit des galeries, on voit des trous. Il y a plein de bêtes qui font leurs trous là-dedans.
C'est l'heure de la petite pause musicale. Virginie, aujourd'hui, elle a une suggestion pour nous.
Et oui, parce que voilà, on vit un très beau moment, donc on va continuer ce beau moment avec Donna Summer, I Feel Love.
Thank you.
Alors, on se trouve devant... Devant quoi, Loïc?
Bah là, c'est une tache de mimosa. Mm-hmm. Qui est arrivée, je ne sais pas comment, mais qui a le mérite d'exister. Qui est très jolie quand c'est en fleurs. Mm-hmm. Le problème, c'est que c'est quand même envahissant.
Eh oui.
C'est une plante invasive. Et on a tendance à en retrouver comme ça, dans le milieu sauvage. Il y a... Souvent aussi, c'est les gens qui par méconnaissance, qui vont tailler leur jardin ou quoi que ce soit.
Ouais.
La déchetterie est ouverte, c'est plus facile de poser. Et puis c'est des végétaux, après tout, ça va se décomposer. Mm-hmm. Et en fait, on se retrouve en milieu naturel avec énormément de plantes invasives ou d'arbres invasifs. Parce que en se décomposant, bah, y a les graines. Les graines viennent, et on est souvent sur des plantes très, très virulentes, et comme le montaussieux, ce qu'ils appellent le montaussieux ici, on en est envahi le long des chemins. Le mimosa, effectivement, il est beau, mais c'est invasif, et ça prend de la place. Donc là, il faut le surveiller, il faut lutter contre quand on peut. Et puis voilà, donc il faut surtout éviter de jeter ces végétaux en milieu naturel.
Ouais, moi j'ai souvenir de l'année 2012, je sais plus, où il avait fait très très froid. Mm-hmm. On était descendu à moins 15, mais c'est revenu à plusieurs années de suite, ça. Tous les 10-15 ans, on a des gros gels, moins 15. Et tous les mimosas crèvent, toute la partie boisée, là, même si ça fait 10-15 cm, tout ça, ça crève. Mais ça fait pas mourir les racines. Et l'année suivante, vous avez à nouveau des rejets. Mmh. Donc c'est quand même une espèce assez robuste. Et la petite anecdote sur les mimosas, vous savez pourquoi ils fleurissent en hiver ?
Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il n'a pas changé de saison. En fait, partout dans le monde, les mimosas fleurissent au même moment. Mmh. Et en Australie, d'où il vient, c'est un arbre qui fleurit au mois de février. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas mis en saison estivale chez nous. Il a gardé sa floraison de fin ou de milieu d'hiver pour nous. Enfin, c'est pour ça qu'il ne supporte quand même pas le grand froid.
Donc là, on vient de quitter le milieu plus forestier. On arrive dans une grande prairie. Est-ce que tu peux... nous parler de cette prairie, qu'est-ce qu'elle a de particulière ?
Elle a de particulier que c'est un milieu ouvert en plein milieu d'un massif forestier, avec toute la particularité qu'une prairie peut apporter au niveau floristique, faunistique aussi. Ce qui se passait, c'est... Alors elle était entretenue par du pâturage ovin jusqu'à présent, et ce qui l'a maintenue en milieu ouvert. Par contre, les moutons ne mangent pas tout, et il y avait une refermeture du milieu progressive. La lisière avançait, les ronciers commençaient à prendre énormément de place. Donc l'idée a été de broyer un petit peu les ronciers, les taches de ronciers, de les réduire, parce que faut garder, ça sert d'habitat aux petits mammifères, à d'autres insectes. C'est pour ça qu'on les conserve.
D'accord.
Effectivement. Et puis on a travaillé sur les lisières, de façon à les conserver en l'état, mais que la forêt ne progresse plus sur ce milieu ouvert, que ce milieu reste ouvert. Voilà.
D'accord. Alors tu disais, été pâturé, il ne l'est plus. Donc il y a un appel. Nous cherchons un berger.
Disons qu'il y a une prairie et des pistes qui méritent d'être pâturées si on arrive à s'entendre. Oui, tout à fait, au contraire.
Ouais. Ok.
Ou faucher, pourquoi pas.
Faucher,
alors au niveau qualité, là, il faudrait demander au service élevage de faire un diagnostic de la chambre d'agriculture, mais... jusqu'à présent, c'était pâturé, c'était utilisé. Ouais. Et ce qui fait aussi, d'ailleurs, que ce milieu est resté réellement ouvert.
Je ferais bien une petite note là-dessus, parce qu'on en parle souvent. On a souvent tendance à faire une séparation entre les milieux ouverts et les milieux forestiers. Et en fait, on apprend de plus en plus que l'écosystème forêt, il fonctionne bien s'il y a des clairières, des ouvertures, des prairies au milieu. Parce que les bestioles qui vivent en forêt, on en a déjà parlé, mais les cerfs, les chevreuils, ils ont besoin d'herbes de temps en temps, ils ont besoin de fleurs, etc. Pareil pour les insectes qui ont leur cycle de vie larvaire essentiellement dans le bois mort. Quand ils sont adultes, pour pouvoir se reproduire et faire des jolis bébés, entre guillemets, il faut qu'ils aient des fleurs et ils les trouvent essentiellement dans les ouvertures de la forêt. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est d'avoir tout le temps cette vision. Ouais, là, la forêt, on la gère par les forestiers, là, les milieux agricoles, par les agriculteurs. Et en fait, ben, les deux sont, enfin, l'écosystème, il marche bien si les deux sont de pair, il ne faut pas les opposer, quoi. Mmh. On a tendance à les opposer et ça va ensemble, en fait.
Justement, c'est pas ce qu'on peut voir sur un des panneaux du site.
J'allais en parler, oui, justement. Sur la partie du sentier un peu plus forestier, il y a un panneau explicatif sur l'évolution aussi de ce qui vient de se dire, justement, des pratiques. Alors nous, à l'Office national des forêts, on parle de forêt mosaïque. Mais c'est en fait cette multiplicité de milieux plutôt que de faire de la monoculture. Alors il y a des endroits qui continueront à le faire parce que ça le permet. Mais sinon, il y a un gros avantage à cette forêt mosaïque, justement, par cette diversité de milieux, ces différents étages, ces différentes ouvertures et au niveau faunistique, floristique évidemment. Et on se rend compte que plus les arbres sont mélangés, plus il y a de milieux différents et plus ils résistent aux maladies et plus facilement aussi au changement climatique, quoi. Donc c'est important de pratiquer maintenant de tendre le plus possible vers une forêt mosaïque et d'enrichir aussi les milieux. On le fait aussi par placettes d'enrichissement où on apporte. Nous, on a beaucoup de pins maritimes en Cévennes, là. Et c'est important de temps en temps, quand le terrain le permet, d'apporter d'autres arbres, d'autres essences qui ont d'autres qualités, qui peuvent servir aux abeilles, qui peuvent servir aux oiseaux, qui peuvent servir pour faire du bois, bien évidemment, mais voilà, donc d'enrichir un peu ces milieux. Donc on a cette politique maintenant de forêt mosaïque, d'enrichissement des milieux, plutôt que monoculture partout.
C'est en ça que moi je trouve ce lieu est vraiment exemplaire sur la diversité des essences qu'on a croisées. On n'en a pas trop parlé, hein. On a parlé du cèdre du Liban, du pin maritime, du chêne liège. Mais en fait, en dessous de tout ça, il y a vraiment une grosse diversité. Il y a du merisier, j'ai vu du tilleul, j'ai vu beaucoup de sureau noir. Il y a vraiment un bel exemple de ce qu'on peut attendre de nos forêts cévenoles, un peu plus de diversité. Et il faut être patient, il faut faire. Voilà, des opérations d'enrichissement, mais si on est patient avec le pin maritime, il se passe plein de choses en dessous et il ne faut pas vouloir sans cesse le rabattre et continuer à faire de la forêt en couvert continu. Ça donne plein de chances à plein de feuillus de s'installer et c'est un peu ça que je trouve exemplaire ici.
On s'est rendu, alors Aymeric en a parlé, mais on s'est rendu compte que la lisière telle qu'on la voit ici, c'est-à-dire pas quelque chose de plutôt progressif, oui, sur la hauteur des arbres et sur la densité, sert d'abri à énormément d'animaux, notamment tous les reptiles, beaucoup de reptiles, ils sont pas loin d'un abri, parce que eux, les menaces souvent viennent du ciel. Donc ils sont pas loin d'un abri, ils peuvent venir se chauffer au soleil, prendre de l'énergie et repartir se cacher, ainsi de suite. Et il y a plein de petits gibiers, il y a plein de petits mammifères, ainsi de suite. Donc la lisière, de la conserver comme telle qu'elle est là, plutôt que d'avoir une lisière comme, je ne parle pas des bords de route où il y a la route, d'un seul coup il y a la forêt. On n'est pas sur un effet de lisière. Là on est réellement sur de la lisière riche.
Au loin, on voit un monsieur tout blanc, isolé. Alors, c'est un arbre. Hein. est-ce que tu peux nous en parler, Loïc? Qu'est-ce que c'est?
C'est un eucalyptus.
On y va. Alors, on est toujours en lisière de la prairie. On s'arrête devant un petit mammifère des bois. Aymeric, qu'est-ce que tu regardes dans le sol?
Alors là, j'étais sur une mousse, mais en fait, je vois autre chose.
Un insecte.
Je pense que c'est un hyménoptère qui ressemble à une fourmi.
Ah oui, mais c'est
et qui a deux petites taches. Ah, je vais vous chercher le nom parce que ça, j'adore cette petite bête-là. Elle est tête noire, thorax roux et abdomen noir avec deux taches blanches. Mm-hmm. Et bien ça, C'est un...
Je me demande
comment ça s'appelle, mais j'aime bien ce genre de vêtements. Sinon, je ramassais des mousses là entre les taches de pelouse. Moi, je suis un peu un maboule des mousses. Alors, je ramasse. Puis après, je regarde à la maison parce que celle-là, je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est très sec là, mais en tout cas, il y a des choses dans ces petites tonsures. Voilà, moi, je ramasse. C'est mon petit...
Merci. Ah bah alors, on se trouve au pied de l'eucalyptus. Et alors, oui, on a l'impression que cet arbre pèle. Et du coup, il y a plein de petits morceaux d'écorce par terre. Tu peux nous en parler de ce phénomène, Loïc ?
L'eucalyptus, alors, il y a énormément de variétés d'eucalyptus. Ils ne réagissent pas tous de la même façon. Celui-là, certains le nomment l'arbre indécent parce qu'il va se déshabiller tous les ans. L'écorce qui vient de tomber a encore l'odeur de l'eucalyptus quand on la malaxe un peu dans la main, qu'on approche du nez. C'est pas du tout des arbres d'ici, hein. Ils ont été importés au moment de l'arboretum. On en a quelques-uns sur site qui réagissent plutôt bien. Donc on les conserve, ils sont là. Il n'y a pas de régénération, par contre, pour l'instant.
Ah oui.
Donc ceux qui sont implantés sont là, le jour où ils partiront, pour l'instant, ils ne sont vraiment pas adaptés au milieu quand même. Hein. On est vraiment en zone limite. Quoi. Et tout ce qui tombe, alors sur cette écorce-là, c'est un peu particulier, mais sinon c'est un retour au sol. Il y a un arbre mort juste à côté. Là. C'est vrai que chez nous, on a des risques d'incendie. Il faut des fois autour des habitations retirer tout ce qui est combustible. Après, en milieu naturel, il faut avoir conscience que à chaque fois qu'on retire un morceau de bois, on prélève au sol. Mmh. C'est quelque chose qui ne va pas retourner dans le sol. Donc il est important qu'il y ait des arbres morts qui retournent au sol, qui vont être réutilisés par ceux d'à côté, par les petits, et ainsi de suite. C'est vraiment tout un écosystème. Oui. Ça fait partie aussi de mon domaine d'activité, de ne pas voir que l'arbre, mais voir vraiment la forêt dans son ensemble, oui. Y compris les sols, où on se rend compte de plus en plus que le sol est quand même la partie la plus importante quasiment de la forêt. Quoi.
Oui, c'est la base.
C'est la base, oui. Mm. Et on a souvent négligé le sol.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que non seulement ça nourrit le sol, hein, le bois mort, mais nous on s'est rendu compte en étudiant les coléoptères que quand on avait des arbres de gros diamètre notamment, on avait à l'intérieur des coléoptères qui sont en fait des prédateurs d'autres coléoptères qui sont réputés ravageurs. Donc en vrai, conserver du gros bois mort dans une forêt, c'est capital pour que la forêt elle ait une certaine résilience face à l'arrivée de ravageurs. Et c'est pour retenir cette idée-là que les gros arbres sont en fait les abris des prédateurs, le plus souvent des potentiels ravageurs.
Alors on se trouve devant le panneau qui explique qu'est-ce que c'est un Tahitien vert. Et alors Loïc, on voit aussi des pierres. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Et là, c'est les ruines de l'ancien château. C'était là où il était. D'ailleurs, il y a encore les sous-bassements du château qui sont fermés au public parce que ça risque de s'écrouler. Et on a retrouvé ce chaudron qui est en fait un couvercle pour fabriquer le charbon de bois. On a pas mal d'air de charbonnage comme ça en Cévennes, elle est un peu plus haut, où ils récupéraient le bois, ils le faisaient, la technique hein, du charbon de bois, c'est-à-dire ils le font rentrer en combustion sous étuve pendant plusieurs jours, et ça fait le charbon de bois. On a découvert ça, donc on l'a remis en évidence, on l'a ramené du fond là pour que les gens puissent le voir au passage.
Et ces émissions à Saint-Jean-du-Pin, sur les sentiers forestiers de l'ONF en forêt de Manial d'Urvergue s'achèvent.
Un grand merci à Loïc Fontaine de nous avoir fait découvrir ce site. Et on vous dit au mois prochain.
Sur Radio Barthas.
107 FM.
Palabre.
En forêt.
L'émission
Lauzé Regardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthas
107 FM.
Latitude 500, longitude 36.